Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Lucas Lazo, mais aussi Margot Le Ridon et Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. On poursuit notre série consacrée au laboratoire politique de l'Europe. Lundi, nous parlions de l'Italie et de sa capacité à réinventer le populisme. Mardi, hier, nous évoquions la Hongrie et son premier ministre Viktor Orban qui voudrait bien réinventer, lui, la démocratie chrétienne européenne. Avant de parler demain de la Grande-Bretagne, place ce matin à l'Autriche où le gouvernement conservateur tente une nouvelle alliance assez inattendue avec les écologistes après s'être allié à l'extrême droite. Autriche, quand les conservateurs se mettent au vert, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Je manque rarement de mots, mais aujourd'hui je suis presque sans voix. C'est une grande responsabilité. Je promets que nous ferons de notre mieux pour être à la hauteur de cette confiance et travailler de notre mieux pour notre belle Autriche. Merci pour ce merveilleux moment.
Nous ne savons pas si à nous seuls en Autriche nous pouvons sauver le climat dans le monde entier. Je ne pense pas, seul, non. Mais ensemble au sein de l'Union européenne, si nous sommes des pionniers, alors oui.
Ces négociations, je dois être honnête ici, n'ont pas été faciles, car les deux parties ont des orientations très différentes. Cependant, nous avons pu atteindre ce que je pense être un excellent résultat.
Nous avons peut-être conclu un accord sur la protection du climat qui va plus loin que tout ce qui avait été imaginé. L'Autriche devrait ainsi devenir le pionnier européen et international de la lutte contre le réchauffement climatique.
Sébastien Kurz, chancelier, jeune chef de file des conservateurs autrichiens, et Werner Kogler, vice-chancelier et écologiste de la première heure. En Autriche, l'année 2020 a commencé avec un sacré virage politique. Début janvier, trois mois après les élections législatives remportées par les conservateurs, le chancelier Sébastien Kurz annonçait être parvenu à un accord avec les Verts pour former un nouveau gouvernement. Les conservateurs de l'OVP expérimentent donc une nouvelle alliance avec les écologistes après l'explosion en plein vol de leur coalition avec le FPE. Le parti d'extrême droite, devenu infréquentable depuis le scandale de l'Ibizagate, qui avait révélé les liens obscurs avec le pouvoir russe. Alors pour la première fois de leur histoire, les Verts autrichiens, menés par le pragmatique Werner Kogler, entrent donc au gouvernement, non sans avoir fait quelques compromis, notamment sur la politique migratoire sur laquelle Sébastien Kurz a refusé de négocier. Protéger les frontières et le climat, voilà donc le défi auquel doit s'atteler cette nouvelle coalition. Mais est-il vraiment tenable ce défi? Cette alliance annonce-t-elle un nouveau modèle pour l'Europe? Est-elle transposable ailleurs? Et d'ailleurs, quel est le prix de cette coalition? Quelles sont les concessions réalisées de part et d'autre? L'avenir du conservatisme se joue-t-il au vert? C'est la question qu'on se pose ce matin. Nous avons invité pour cela d'abord Daniel Eder, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste et vous êtes le correspondant à Paris du quotidien autrichien Courir. Avec nous, en duplex de Berlin, Patrick Moreau, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin, Patrick Moreau. Vous êtes politologue, chercheur au CNRS, au laboratoire dynamique européenne de l'Université de Strasbourg. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages. Je citerai celui que j'ai par exemple sous les yeux de Jörg Haider à Ernst Christian Strache, l'extrême droite autrichienne à l'assaut du pouvoir. C'était paru au CERF. Alors d'abord, on va commencer avec l'actualité parce que en réalité, on le voit, ce coronavirus, il fait l'actualité partout et dans tous les champs. Il se diffuse dans l'ensemble du monde et il dépasse assez largement le volet purement sanitaire. Les conséquences économiques et politiques vont continuer de se faire ressentir dans les mois qui viennent. Dans le domaine du commerce, de l'immigration, on est probablement à l'aube d'une nouvelle crise systémique. Daniel Eder, l'Autriche est touchée par le coronavirus avec une centaine de cas enregistrés. Mais au-delà de la dimension purement sanitaire, est-ce qu'il y a des conséquences politiques à attendre du côté de l'Autriche?
Oui, ce qu'il faut dire, c'est que cette coalition dont vous venez de parler, que vous estimez être un laboratoire, entre le leader conservateur très, très à droite, il faut le souligner, Sébastien Kurz et le Parti des Verts, est entré actuellement, juste maintenant, dans sa première grave crise intérieure, au sujet de la question de l'accueil de quelques centaines de réfugiés pour soulager la catastrophe humanitaire qui règne actuellement sur les îles grecques. Ces deux partis, ces deux forces s'affrontent, et là, c'est là qu'intervient la peur du virus, puisque les conservateurs, et notamment Sébastien Kurz, pour dire qu'il reste intraitable et qu'il refuse même l'accueil de quelques réfugiés tels que c'est prôné par exemple par le gouvernement allemand, il souligne la possibilité que parmi ces quelques réfugiés qu'on puisse accueillir pour soulager la Grèce, ça puisse être un vecteur du virus. Ouais. Et donc ça renforce la position anti-migration de la partie conservatrice de ce gouvernement.
C'est là qu'on voit que le conservatisme de Kurz est quand même très à droite, parce que ce lien justement entre migration et coronavirus, c'est presque un marqueur aujourd'hui dans les extrêmes droites européennes. Patrick Moreau, cette semaine, le gouvernement autrichien a annoncé un nouveau paquet de mesures pour tenter de freiner la propagation de ce virus, avec la fermeture de ses frontières aux personnes venant d'Italie. Ce qui est certain, c'est que l'enjeu du contrôle migratoire va devenir encore plus prégnant. Et donc, a priori, ce chancelier Kurz, il va se retrouver mécaniquement renforcé dans cette coalition, Patrick Moreau.
Oui, de toute évidence, les Verts sont quand même dans une situation difficile. Je crois que Kogler a parfaitement compris que ce qu'on a appelé l'effet Greta était en situation de faiblesse. C'est-à-dire que la priorité, comme dans tous les pays, comme en Allemagne, comme en France maintenant, est la survie de l'économie. C'est évidemment les mesures de fermeture qui vont toucher les écoles, les universités, les théâtres. Donc la priorité, si vous voulez, l'impact écologique maintenant est passé en second plan. Donc Kogler le sait parfaitement, et il sait aussi que stratégiquement, Kurz est inattaquable, c'est-à-dire qu'il a derrière lui une grande majorité des Autrichiens, et en particulier 73% de la population autrichienne est hostile à une reprise de l'immigration. Donc fondamentalement, il est dans une position forte, mais d'un autre côté, si vous voulez, les deux personnages sont l'un et l'autre des personnages extrêmement rationnels, c'est-à-dire que Kogler sait parfaitement ce qu'il a gagné à conserver cette coalition avec Kurz, et Kurz, dans une certaine mesure, est en situation de force parce que il est en mesure de trouver d'autres partenaires de gouvernement en cas de besoin. Donc la situation tout simplement, il y a d'autres partenaires. La social-démocratie est certes en crise, mais c'est aussi une possibilité. Et puis, en définitive, le FPE, malgré son triste état politique actuellement, reste quand même un partenaire de coalition possible. À la limite, on peut imaginer même un gouvernement minoritaire, en alliance par exemple avec les néos, ce sont des libéraux, dans lequel Kurz irait chercher une majorité alternative, une fois avec le FPE et une fois avec Kogler. Donc tout ça, en définitive, les choses ont en 10 jours profondément changé.
Je rappelle pour les auditeurs, le paysage tel qu'il s'est présenté au lendemain des élections législatives de septembre dernier, avec une victoire des conservateurs avec 37% des voix, devant les sociaux-démocrates du SPE 21%, l'extrême droite, le FPE avec 16% et presque 14%, pas tout à fait pour la liste des Verts conduite par Werner Kogler. Dani Leder, on a discuté pendant très longtemps sur le contrat de coalition entre les conservateurs et les écologistes. S'en est sorti un document qui fait à peu près 300 pages, qui est intitulé « Par responsabilité pour l'Autriche ». Quel est le contenu de ce contrat concrètement? On va avoir le temps de détailler, mais les grandes lignes, les concessions faites de part et d'autre.
La principale concession la principale concession a été faite par les Verts, parce que ils ont accepté grosso modo la ligne disons ferme, pour ne pas dire très dure, de Kurz sur la migration. Donc plus d'accueil de réfugiés du tout. Je veux dire, il y a toujours les possibilités de demander de l'asile en Autriche, mais en principe les portes sont fermées. Donc on le voit maintenant, cette initiative qui est partie, je le souligne, de l'Allemagne et du ministre de l'Intérieur conservateur allemand, Seehofer, qui lui dit il faut quand même faire un petit geste, il faut une coalition des bonnes volontés. Même ça, c'est rejeté par Kurz. par le chancelier autrichien. Donc les Verts ont accepté cela d'avance et maintenant ils se retrouvent dans une situation qui est difficilement gérable pour eux. D'un autre côté, il y a effectivement une sorte de bonne volonté, hein, je dirais des déclarations de bonne volonté sur la limitation des émissions d'effet de serre, où l'Autriche, en fait, a un grand retard. Bon, il y a des effets d'annonce, hein, mais ça reste très très vague. Malgré ces 300 pages, c'est un programme très vague, et en fait, les Verts ont accepté quelque chose qui reste très flou de leur côté. L'essentiel dans cette histoire, ce n'est pas le programme. C'est que c'est des deux côtés une coalition de force majeure. J'entends par là que Kurz devait à tout prix se débarrasser à ce moment-là de l'extrême droite comme partenaire de coalition, parce que cette extrême droite qui était soumise au bon vouloir du Kremlin commençait à isoler l'Autriche au niveau sécuritaire vis-à-vis de ses alliés occidentaux, y compris conservateurs allemands. Et d'un autre côté, les Verts savaient qu'ils allaient avoir un rapport de force faible pour eux dans ce gouvernement, mais c'était le seul moyen.
C'était une occasion.
C'était le seul moyen, disons, pour une obligation morale d'empêcher la perpétuation, l'incrustage de l'extrême droite au niveau du pouvoir, au niveau gouvernemental. Et c'est pour ça qu'ils y sont allés.
Sur la question du contrôle migratoire, parmi les couleuvres à avaler du côté des Verts, le rejet de tout mécanisme européen de répartition, la possibilité de mettre en prison préventive tout demandeur d'asile qui serait considéré comme une menace pour la sécurité du pays, je mets la formule entre guillemets, et puis il y a aussi la mise en place de centres de retour pour les réfugiés, mais il y a aussi d'autres couleuvres. Si on regarde, Patrick Moreau, ce qui a été obtenu du côté des Verts, le programme écologique de ce fameux contrat, c'est quoi concrètement?
Je crois que mon collègue a effectivement dit que les choses étaient particulièrement vagues. Il y a eu dans le programme de l'EFAOP un certain nombre de dimensions écologiques qui ont été introduites, tout simplement parce que Kurz sait parfaitement qu'à la limite, l'écologie politique n'est pas nécessairement située à gauche. C'est-à-dire que la relation à la Heimat, la relation à une société dans laquelle la nature permet une vie agréable, etc., a toujours été plus ou moins dans les traditions politiques du conservatisme.
Je renvoie à la révolution conservatrice des années 30. Oui, Patrick Moreau, là, il faut faire peut-être un point, parce que vous venez d'utiliser un terme, la Heimat, sur lequel il faut un tout petit peu se pencher. Oui, il n'y a pas de traduction possible pour nous, c'est quoi ?
L'Heimat, c'est le pays réel. C'est en fait l'image, c'est les montagnes, les paysans avec leurs vaches, etc. Enfin, c'est une relation, si vous voulez, un enracinement dans ce qu'est le monde autrichien.
Donc c'est à la fois un certain rapport à la nature, mais aussi un attachement au terroir, au territoire qui peut même aller jusqu'à une forme de nationalisme d'une certaine manière. C'est tout ça à la fois.
Ouais. Oui, mais naturellement.
Mais c'est très riche, mais là, en fait. Si vous me permettez une parenthèse, il faut pas pousser le bouchon trop loin, en accablant les Verts autrichiens, en disant voilà, c'est un parti qui serait prêt à manger de ce pain-là, c'est-à-dire du ancrage terrien, nationalisme. Non, c'est un parti qui revendique être le parti des droits de l'homme. Hein, et d'ailleurs, il faut mettre un bémol sur la question du laboratoire de ce gouvernement autrichien actuel. Il n'est pas tellement typique dans le sens que Kurz est très à droite. Mais il y a par ailleurs en Allemagne, mais aussi dans tout l'ouest de l'Autriche, depuis longtemps, des coalitions, des gouvernements locaux, régionaux, qui fonctionnent entre les Verts et, disons, la partie libérale, modérée, humaniste, chrétienne des conservateurs. Ça marche. Et ça a de l'avenir. Tandis que cette coalition-là, avec ce droitier qui est Kurz, il y a une grande interrogation.
Je rends la parole à Patrick Moreau. Je vous laisse poursuivre et puis peut-être qu'on pourra s'interroger un peu sur la réalité du positionnement politique de ces Verts autrichiens qui sont peut-être moins à gauche que ce que nous, on peut imaginer depuis la France où quasiment systématiquement on place effectivement les Verts à gauche de l'échiquier politique. Peut-être qu'il faut revoir un tout petit peu les choses s'agissant du contexte autrichien. Patrick Moreau, je vous rends la parole.
Oui, il faut revenir un petit peu en arrière. Si vous voulez, en 2017, il y a une scission du Parti Vert qui s'appelle la liste Pils, qui emmène avec elle ce qu'on a appelé l'aile gauche, en fait, des Verts. C'est-à-dire ce que, en Allemagne, on appelle les fondamentalistes. Donc ces gens-là, effectivement, n'ont pas été réélus à la consultation suivante, mais c'est-à-dire que toute cette aile gauche n'est pas encore revenue au sein des Verts. C'est-à-dire qu'il n'est resté dans le Parti Vert, qui a reconstruit entièrement Kogler, pratiquement qu'un certain nombre de Verts qui étaient réalistes. Certes, le thème des droits de l'homme est tout à fait central, mais je pense que la stratégie de Kogler, fondamentalement, pour en avoir discuté à la direction du parti, est celle, en fait, d'une reconstruction sur le long terme. Et effectivement, son option politique, c'est de créer partout, à la prochaine consultation nationale, les conditions d'une agrégation des Verts au niveau régional. Et c'est ça son idée. Et le parti, encore une fois, est en pleine reconstruction actuellement. Et c'est pour ça que Kogler tiendra le plus longtemps possible au sein de la coalition avec Kurz. Parce qu'il a besoin de ce temps pour que le parti soit modernisé et revienne à sa force ancienne.
Alors justement, on va revenir un instant sur cet épisode 2016 où l'Autriche connaît une élection présidentielle historique qui a vu la défaite du candidat d'extrême droite Norbert Hofer devant le candidat soutenu par les écologistes Alexander Van der Bellen, souvenez-vous.
Nous avons gagné. La nouvelle va se répandre dans les grandes villes d'Europe et pas seulement les grandes villes. Nous avons envoyé un signal rouge, blanc, rouge, et ce signal sera lu dans les capitales, mais pas seulement les capitales. Je suis si reconnaissant. Nous l'avons fait.
Voilà, Van der Bellen l'emporte à l'époque avec 50,3% des voix. Van der Bellen, qui est quand même marqué par cette couleur verte, puisqu'il a été porte-parole des écologistes pendant plus de 10 ans. Et il se trouve que Dani Leder, après cette victoire de Van der Bellen, les Verts vont essuyer une cuisante défaite aux législatives avec à peine 4% des voix, ne parvenant à envoyer aucun député au Conseil national. Et pourtant, les législatives de 2013 avaient été historiques. Mais alors, dans l'autre sens, puisque on avait envoyé 23 écologistes au Conseil national, record dans l'histoire récente du pays. Pour quelle raison? Comment se fait-il que, alors même que Van der Bellen, très marqué comme écologiste, on ne parvient pas à capitaliser sur cette victoire et qu'on a cette défaite absolument incroyable?
Je vais pas vous donner la clé parce qu'il faut entrer dans les bisbilles politiques.
Vous allez nous donner quelques éléments quand même.
Que notre collègue vous a expliqué tout à l'heure, il y avait une scission qui a affaibli le Parti des Verts à ce moment-là. Mais l'essentiel, ce qu'il faut retenir pour comprendre les mouvements de fond de la société autrichienne, c'est que c'est un mouvement de balancier. C'est-à-dire qu'il y a d'une part cette forte peur d'être envahi de la migration notamment musulmane, et donc il faut le rappeler, en 2015-2016 l'Autriche a été un pays, c'est vrai, qui en pourcentage a accueilli probablement le plus de réfugiés lors de la grande vague d'arrivée, plus en pourcentage par rapport à la population que l'Allemagne. Donc à ce moment-là, disons, les forces humanistes, les forces prêtes à l'accueil étaient à l'offensive. Ensuite, on a eu un contre-coup, et là on a eu ces présidentielles où on a failli, je dis bien failli, avoir la victoire d'un candidat du parti de l'extrême droite, du FPE. Et ça a été évité de justesse. Il y a eu la première élection a été contestée par l'extrême droite. Les Autrichiens sont retournés aux urnes et ils ont confirmé ce choix. Ça veut dire quoi? C'est qu'à ce moment-là, ils ont dit, on veut pas être marqué, surtout par rapport à nos alliés occidentaux. On veut pas retomber dans cette image, l'Autriche, terrain favori des anciens nazis. On veut pas être marqué à l'extrême droite. On veut pas suivre le modèle hongrois ou polonais. Mais une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on s'est, qu'on a pris les devants à ce niveau-là et qu'on a fait preuve, disons, d'un minimum de civilité antifasciste, on peut se permettre de resserrer les vis vis-à-vis de la migration. Et c'est à ce moment-là que survient Kurz. Il faut le souligner, il est pas d'extrême droite, il est issu d'un parti conservateur, mais il reprend une partie du programme d'extrême droite vis-à-vis de la pression migratoire. Et ensuite, retour du balancier, l'extrême droite pose de plus en plus de problèmes et isole l'Autriche, notamment au niveau sécuritaire, on l'a vu tout à l'heure. Et entre-temps, la scission d'extrême-gauche ou de gauche qu'avait affaibli les Verts, c'est encore affaibli. On a la poussée des jeunes qui en Autriche était particulièrement forte dans ce mouvement climatique contestataire, une sorte de grève générale des jeunes. C'était encore plus puissant qu'en France et ça porte les Verts à nouveau à un pourcentage de 14%.
Patrick Moreau, si je reviens au contrat de coalition entre les conservateurs et les écologistes, il y a un mécanisme qui est intéressant sur lequel je voudrais qu'on se penche, c'est-à-dire qu'on prévoit un mécanisme de résolution des conflits. C'est-à-dire que dans l'hypothèse d'un différend, Patrick Moreau, les deux parties peuvent éventuellement se désolidariser pour voter avec l'opposition. Jusqu'où peut fonctionner ce mécanisme ? On va prendre un exemple. Si on se retrouve dans une situation où on a un différend entre les conservateurs et les Verts, par exemple totalement à hasard, sur la question de l'immigration, et que, eh bien, les conservateurs décident de faire voter une loi avec une majorité ad hoc, construite sur l'audit texte, avec l'extrême droite, par exemple. Est-ce qu'un tel scénario pourrait empêcher l'effondrement de la coalition, Patrick Moreau ?
C'est-à-dire que Kurz l'a dit de manière très très nette, les deux partis sont profondément différents par leur nature et par leur référent éthique. Donc c'est pas du tout impossible d'imaginer qu'effectivement Kurz parte à la recherche, en signal d'ailleurs en direction des Verts, d'une majorité alternative. Encore une fois, je ne suis pas totalement certain que ça mènerait à un éclatement entre les deux partis, parce que Kurz actuellement, malgré les tensions qui sont réelles au sein du parti, et je l'entends tous les jours, offre quand même un certain nombre de... fait une offre quand même en direction des Verts. Il a dit, par exemple, bon, alors je passe sur les côtés un peu bizarres, c'est-à-dire qu'il a offert à la Grèce 12 commandos spéciaux du groupe Cobra, il a offert un char blindé et 1 million d'euros. Non, je pense que l'essentiel de l'offre qu'il a fait ces derniers jours, enfin ces dernières heures pratiquement, c'était en fait d'augmenter énormément les fonds d'aide, mais aux populations qui sont situées en Syrie et qui sont actuellement soumises à l'attaque des Syriens. Les Verts vont avoir du mal, si vous voulez, à refuser cette offre, parce qu'il y a quand même une offre dans cette direction. Mais je crois que les Verts savent parfaitement que la population autrichienne ne veut pas d'une nouvelle immigration. Et je pense qu'à un moment quelconque, Kurz acceptera certainement 200 ou 300 enfants. Il est capable d'aller jusque-là. Mais une remise en cause, je dirais, fondamentale de la coalition, parce qu'il fera voter une loi en s'appuyant sur les sociodémocrates, sur les néos, ou voire sur le FPE, je n'y crois pas tellement.
Daniel Eder, sur ce mécanisme de règlement des différends qu'on a introduit dans ce contrat de coalition, ce qui est déjà étonnant.
Oui, c'est même pour l'Autriche qui a un système très très flexible, très adaptif. Il faut aussi souligner pourquoi, je veux dire, pour que nos auditeurs en France ont du mal peut-être à imaginer ça, c'est aussi lié à une sorte de système qui est quasiment une proportionnelle à l'intégrale, qui fait que même Kurz, avec un score de environ 37% la dernière fois, qu'il est le net vainqueur, il peut pas gouverner seul, donc on doit s'adapter. Mais même pour cette tradition autrichienne de grande adaptabilité, de grands compromis, c'est quand même lourd à porter si vraiment on arrive à une situation où les deux partenaires gouvernementaux votent en alliance divergente. Donc on peut se poser la question si vraiment, si on arrive à ça, si ce gouvernement entre la droite et les Verts puissent survivre. J'en doute, mais je pense que effectivement la situation telle qu'elle aujourd'hui n'est pas encore à ce point radicalisée pour qu'on en arrive là. Mais qu'est-ce qui se passera demain si Erdogan ouvre les frontières encore plus pour les réfugiés qui peut pas ou qui veut pas contenir chez lui pour des raisons qui sont tout à fait, à mon avis, compréhensibles, et qu'on a à nouveau une poussée humaine extraordinaire à travers les Balkans qui arrive jusqu'en Autriche. Alors là, à ce moment-là, quelle sera l'attitude des forces qui sont postées à la frontière? Là, déjà, les Verts ont dit, nous, on tirera jamais sur des réfugiés, tandis que Kurz, oui, laisse ouvert cette perspective. Donc, ça ferait vraiment éclater, à mon avis, la coalition.
Alors, faisons l'hypothèse, Patrick Moreau. La coalition éclate. Que se passe-t-il alors? Est-ce qu'on repasse par les urnes? Ou est-ce que l'hypothèse d'une nouvelle coalition, alors là j'allais dire un peu à l'italienne, c'est-à-dire on se souvient qu'en Italie il y avait eu un renversement, que finalement le mouvement 5 étoiles s'était associé au Parti démocrate, Giuseppe Conte, le président du Conseil, est donc resté, et Matteo Salvini s'est retrouvé éjecté du pouvoir, alors même qu'il avait misé précisément sur des élections législatives anticipées. Est-ce que Kurz pourrait refaire le coup dans l'autre sens et par exemple s'allier avec les sociaux-démocrates, vous l'évoquiez tout à l'heure, Patrick Moreau?
Oui, il faudra dire que les sociaux-démocrates se stabilisent parce qu'actuellement il y a une crise de la direction du parti qui est très forte, et je pense que le successeur à la tête de la direction du SPE, fondamentalement, ça a toujours été la stratégie du SPE de rechercher une grande coalition. Le problème, c'est que historiquement, les Autrichiens sont fatigués des grandes coalitions. Donc encore une fois, je pense qu'une des hypothèses qu'un certain nombre de politistes ont posées, c'est effectivement un gouvernement minoritaire pendant une période assez longue, voire un retour au FPE. Alors évidemment, il faut regarder l'état du FPE actuellement. Le dernier congrès, enfin le congrès du parti au Burgenland a montré que le FPE est profondément divisé, se remet très mal de la crise Strache. Strache est aussi candidat à Vienne, hein, c'est-à-dire qu'il a créé, enfin du moins il a rejoint un parti anti-FPE.
On rappelle un Strache, parce que les auditeurs de France Culture ne savent pas peut-être qui c'est l'ancien chef de file de l'extrême droite qui est tombé suite à un scandale, ce qu'on a appelé l'Ibiza Gate, avec une vidéo dans laquelle on l'entend quasiment prêt à envisager un financement venant de la Russie. Voilà, en quelques mots, hein, Patrick Moreau.
Tout à fait. Mais le financement russe est assuré, si vous voulez. Le FPE a toujours touché de l'argent de la Russie. On a un certain nombre d'éléments sur cette question. Mais encore une fois, si vous voulez, la position de Kurz, et on l'entend au sein de ses Sherpas, c'est que fondamentalement, le FPE peut se rénover, peut se aller vers le centre. C'était le grand espoir, si vous voulez, avec la personnalité d'Hofer, qui était quand même nettement moins radical dans une certaine mesure que Strache. Tout ça, ça n'avance pas beaucoup, hein, lorsqu'on regarde le nouveau programme du FPE. Cette mutation est loin d'avoir réussi. Donc le FPE est un candidat lointain, si vous voulez, à une nouvelle grande coalition. En direction du SPE, encore une fois, c'est très difficile parce que les grandes coalitions ont une très mauvaise presse en Autriche depuis longtemps. Hein. Ça remonte à Haider, 1986.
Danny Leder, peut-être sur la question des liens entre l'extrême droite autrichienne et la Russie, un mot. Et puis ensuite, je voudrais vous entendre sur la question du déclin des sociaux-démocrates. Mais sur le premier point d'abord.
Oui, je veux dire, le FPE, à l'instar du Rassemblement National ex-Front National et d'autres aussi, la Ligue en Italie, et ainsi de suite, sont à un moment, à la fois idéologiquement et financièrement, se sont alignés sur le Kremlin, ont reçu des subsides, et les Autrichiens sont allés très loin sur ce chemin, puisqu'ils ont le FPE, le parti d'extrême droite autrichien, donc a conclu une sorte d'accord d'amitié avec le parti Russie Unie de Poutine, qui les impliquait fortement au niveau politique. Bon, c'est quelque chose qui était, disons, dans la tendance naturelle. Hein. Faut rappeler que Marine Le Pen louait Poutine. L'extrême droite s'appuyait pendant un moment sur ce, disons, contre-modèle vis-à-vis des sociétés libérales et accueillantes et ouvertes et diverses d'Europe occidentale. Entre-temps, les choses ont à nouveau bougé puisqu'on a maintenant aux États-Unis Trump. Et donc, c'est quelque chose qui...
Et donc quoi? On crée des nouveaux réseaux entre l'extrême droite autrichienne et les conservateurs américains, c'est ça que vous êtes en train de
oui,
d'insinuer.
Oui, vous ouais. avez tout à fait raison. D'accord. Si vous voulez, le problème, c'est que évidemment, Trump à un moment était aussi, on le sait, dans des relations plus ou moins officielles, inofficielles, secrètes, avouées, inavouées, avec des réseaux d'influence de Moscou. Mais il est clair, disons que ces deux forces vont tôt ou tard s'entre-déchirer. Ils sont déjà en cours de route, et donc l'extrême droite européenne est en train de se diviser sur cette ligne de partage entre ceux qui vont être pro-Trump, ceux qui vont être pro-Moscou, et ensuite on a des forces de droite modérées qui, elles, veulent manger ni le pain de l'un ni de l'autre, et qui cherchent à préserver l'indépendance de l'Union européenne.
Daniel Eder, je voudrais vous entendre sur la question, alors j'évoquais avec Patrick Moreau cette possibilité d'un retournement d'alliance
oui.
avec les conservateurs et les sociaux-démocrates. Il y a quand même quelque chose qu'il faut essayer de comprendre, Daniel Eder, et ensuite je passerai la parole à Patrick Moreau, c'est ce renforcement des forces conservatrices en Autriche, il est quand même aussi à mettre en regard avec un véritable affaiblissement
oui.
des sociaux-démocrates.
Oui.
Pourtant, historiquement, ces sociaux-démocrates, ils sont incontournables dans le paysage
oui,
politique.
Oui,
ils
oui.
ont participé à 23 oui. des 26 oui. gouvernements fédéraux.
Oui.
Ils en ont dirigé 12.
Oui.
Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ce SPE soit aussi faible ?
La crise migratoire, l'affaiblissement des syndicats par rapport à la, y compris l'Autriche est un pays très riche qui a énormément profité de l'Union européenne, de l'extension à l'est, qui est aussi aujourd'hui dominateur sur les marchés de l'Est européen, mais on a une classe ouvrière hein, qui a été affaiblie dans ses droits sociaux, et la social-démocratie, en voulant gérer au mieux ce système d'État-providence tout en faisant des concessions à l'initiative privée et aux multinationales, a dû faire de fortes concessions, et donc il y a tout un potentiel, comme partout, de travailleurs qui se sentent des délaissés. Mais il faut faire attention. C'est vrai qu'on est dans un moment, vous l'avez dit tout à l'heure, les Verts, un coup, ils gagnent les présidentielles, le lendemain, ils sont à 4%. Donc ça, c'est vrai aussi pour la social-démocratie. Et on aura, si tout se passe normalement, les municipales à Vienne. Hein, c'est intéressant puisqu'on les a maintenant à Paris et en France, à Vienne en octobre. Et là, la social-démocratie va remporter le morceau, va gagner, va se refaire une santé, c'est évident, parce que les Verts sont trop affaiblis à cause de leur coalition, et que, comme l'a cité notre ami à Berlin, c'est que l'extrême droite qui pouvait monter et menacer la social-démocratie à Vienne, elle a explosé en vol.
Alors, Patrick Moreau, pour que les Verts restent dans cette coalition, il faut bien qu'ils obtiennent des choses. Alors quand on regarde le contrat de coalition, il y a un certain nombre de choses. Il y a une neutralité carbone d'ici 2040, même si on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on va l'atteindre et on ne sait pas exactement comment on va financer tout ça. Il y a une augmentation de l'écotaxe sur les billets d'avion. Il y a la création d'une carte à 3 euros par jour permettant de prendre les transports en commun. Il y a le passage au 100% électrique provenant du renouvelable d'ici 10 ans. Et puis, il y a la question fiscale. Sur la question fiscale, le gouvernement a annoncé vouloir créer une taxe carbone ou une fixation du prix d'un CO2, sachant que on ne parle évidemment pas explicitement de taxe carbone, mais on a quand même une commission qui est chargée de définir un prix carbone d'ici 2022. Alors on a vu, nous ici en France, les effets de l'annonce d'une taxe carbone avec l'émergence des mouvements des Gilets jaunes. Patrick Moreau, est-ce que vous pensez qu'une telle taxe pourrait voir le jour ? Est-ce que les Autrichiens seraient prêts à l'accepter ? Parce que, une fois encore, il faut bien que les Verts obtiennent quelque chose dans cette coalition, Patrick Moreau.
Oui, je pense pas que la taxe carbone conduira à un phénomène comme les Gilets jaunes en Autriche. Je pense que c'est pas du tout le style de la société autrichienne. C'est plus un style français.
Donc ça serait, ça pourrait être ce que gagnerait les Verts. Ça serait une vraie grande avancée, ça.
Oui, mais c'est pas, je dirais, c'est lié à la nature, si vous voulez, de l'économie autrichienne. L'économie autrichienne n'est pas une économie lourde au sens, je dirais, du 19e siècle. C'est quand même fondamentalement une économie de services et aussi une agriculture, une micro-agriculture de montagne. Donc, fondamentalement, le phénomène des services n'est pas n'est pas touché par réellement par le problème de la taxe carbone. Deuxièmement, encore une fois, il faut voir l'attachement des Autrichiens à ce que j'appelais tout à l'heure l'AEMAT, au pays réel. Et je pense qu'il y a réellement chez les Autrichiens la certitude qu'un certain nombre de problèmes écologiques doivent être réglés, ce qui fait la force des Verts, incontestablement. Mais je dirais qu'il n'y a pas de radicalité verte possible, tout simplement parce que, encore une fois, les mesures qui sont proposées sont dans une certaine mesure acceptables. On le voit dans les sondages, il n'y a pas véritablement de recul. Ce qui a reculé, actuellement, ce qu'on voit dans le dernier sondage qui est apparu cette nuit, c'est un recul, si vous voulez, de l'effet Greta. C'est-à-dire que la mobilisation, les gens se reportent de plus en plus vers la crise du coronavirus. Ce qui rend fondamentalement, je dirais, la force offensive des Verts sur ce thème, ça la réduit considérablement.
Daniel Eder, vous vouliez réagir.
Vous avez touché très juste tout à l'heure en disant, en partant des gilets jaunes et en posant la question sur l'Autriche, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que partout en Europe et notamment en Autriche, ce qui s'est passé en France a été analysé, mais alors vraiment dans tous les détails. Et donc la conclusion, c'est de pas refaire la même erreur. Et l'idée, alors d'abord la taxe carbone en Autriche n'a pas été instaurée immédiatement, comme vous l'avez dit. Bon, on ne sait pas si elle viendra vraiment. Et sinon, l'idée est plutôt de faire un système de bonus-malus. C'est-à-dire que on pourra avoir des points et gagner de l'argent si on utilise plutôt alors les transports communs là où ils sont là, y compris avec ce billet extrêmement attractif, ou alors on paiera plein pot si on bascule pas. Mais ça sera moins brutal et plus socialement équilibré. En tout cas, c'est conçu comme ça, si ça se fera un jour. Et donc ça, c'est la grande leçon des gilets jaunes qui est partie partout en Europe.
Donc on a beaucoup scruté ce qui s'est passé chez nous en France depuis l'Autriche. Je voudrais vous entendre l'un et l'autre sur un point, et puis ensuite on accueillera un nouvel invité, Jérôme Vaillant, pour élargir la focale et parler de l'Allemagne qui en réalité a peut-être été le véritable laboratoire, en tout cas au niveau des régions, de ces coalitions entre conservatisme et écologistes. Mais d'abord peut-être un point, parce que chez nombre de penseurs conservateurs précisément, on revendique l'attachement des conservateurs à l'écologie, considérant même que finalement c'est à droite que l'écologie politique est apparue chez les romantiques allemands en réaction aux Lumières. C'est par exemple la thèse qu'avait défendue Roger Scruton, l'une des grandes voix du conservatisme britannique, disparue au début de l'année, dans un ouvrage intitulé « Green Philosophy », dans lequel il expliquait au fond que le conservatisme est bien mieux adapté que le libéralisme pour embrasser la cause environnementale. Est-ce que vous pensez que Sébastien Kurz peut aider les forces conservatrices d'Europe à renouer avec l'écologie de ce point de vue-là? On va commencer avec vous, Patrick Moreau, en duplex de Berlin.
Je suis très sceptique sur le cas allemand. Sur le cas allemand, le Parti Vert n'est pas du tout semblable au Parti Vert.
On va y revenir, on va y revenir.
D'accord. Donc, oui, je pense que Kurz a évidemment lu les thèses vertes du conservatisme, c'est tout à fait évident. D'accord. Moi, il y a un certain nombre de lettres, je renvoie, si vous voulez, à sa biographie de jeune homme. Il nous a expliqué, et on le voit aussi dans les biographies qui ont été écrites sur lui, c'était quelqu'un qui a été élevé partiellement par ses grands-parents, que c'était quelqu'un qui aimait être à la campagne, qui n'aimait pas les villes, qui n'aimait d'ailleurs pas dans son lycée non plus, les étrangers. Donc on voit très bien, très très tôt, des marqueurs, lorsqu'il a 14-15 ans, des marqueurs forts qui réapparaissent maintenant. Il a, je pense, très parfaitement compris que l'écologie, ma foi, était une valeur portante. Et je pense qu'il est intimement persuadé qu'il faut corriger un certain nombre de choses.
Daniel Eder, Kurz a probablement lu Scruton et sa Green Philosophy.
Oui, mais je pense que c'est pas important. Il faut se débarrasser de ces souris hyper idéologiques. C'est vrai qu'on peut trouver des rapports entre tout et tout, mais si on revient à l'essentiel, il faut dire que les Verts incarnent à la fois en Autriche et en Allemagne une force, disons, de centre-gauche, hein, et ils le resteront. Et donc, le fait qu'ils se retrouvent avec en coalition, alors je souligne non seulement en Allemagne, et d'ailleurs il y a le Baden-Württemberg où ils dirigent carrément cette coalition, mais aussi en Autriche. En Autriche, c'est depuis 2013, quasiment tout l'ouest du pays, hein, est régi par des coalitions entre les conservateurs et les Verts. Mais c'est pas aussi miraculeux, et il faut pas chercher, je sais pas quel théoricien qui retrouve la nature et le conservativisme ou le nationalisme. Il faut tout simplement admettre que entre des conservateurs pragmatiques et même à la limite, qu'on pourrait classer au centre-gauche, hein. Rappelons-nous la ligne de Merkel. Merkel est pas conservatrice au sens français, disons, du terme, ou anglais, et qui se retrouve avec des Verts qui sont des gens modérés de gauche, c'est quelque chose qui est dans l'ordre des choses.
On est avec vous, Dany Leder, et vous, Patrick Moreau, en duplex de Berlin, dans cette semaine consacrée au laboratoire politique de l'Europe. On s'intéresse ce matin à l'Autriche et à l'avenir du conservatisme qui peut peut-être sera vert. On va justement comparer les choses et regarder ce qui s'est passé du côté de l'Allemagne.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque en Allemagne aussi, dès les années 2000, de telles coalitions ont vu le jour. Alors au niveau local, dans les conseils municipaux, dans les gouvernements régionaux, c'était le cas par exemple du côté d'Hambourg en 2008.
Am 17.04.2008 ist es dann soweit, der erste schwarz-grüne Koalitionsvertrag auf Landesebene.
Ich bin überzeugt, dass in der Politik, nebenbei wie auch im normalen Leben, es richtig ist, die Kraft und den Mut zu haben, neue Wege zu beschreiten, auch wenn es ungewohnt ist.
Voilà, je suis convaincu qu'en politique, comme dans la vie de tous les jours, il faut faire preuve de force et de courage afin de créer de nouvelles voies. Les polarités en politique se retrouvent par exemple dans les domaines suivants, liberté versus sécurité, écologie versus croissance. Chaque parti doit essayer de trouver des solutions aux problèmes urgents et ne pas s'en tenir à des démarches partisanes. Voilà en gros ce qui se dit au moment où en avril 2008 on décide de faire cette coalition entre conservateurs et écologiste du côté d'Hambourg. On va retrouver un nouvel invité, Jérôme Vaillant, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur émérite de civilisation allemande à l'université de Lille 3 et directeur de la revue Allemagne d'aujourd'hui. Alors, j'avais prévu, et on va le faire, de revenir sur les conditions de cette coalition au plan régional, parce qu'il y avait quelque chose quand même d'historique dans ce qui s'est passé du côté d'Hambourg en 2008, mais on va venir, j'allais dire, droit au fait, Jérôme Vaillant, parce que la vraie question que l'on se pose maintenant, elle concerne le niveau fédéral, c'est-à-dire qu'il y aura des élections fédérales en 2021. Patrick Moreau a déjà évoqué un tout petit peu ce sujet, et compte tenu, c'est vrai, des dynamiques politiques actuelles, la perspective d'une coalition entre la CDU et les Verts n'est pas complètement à exclure, puisqu'on a vu les dégâts politiques d'une alliance de facto avec l'AfD en Thuringe, qui a provoqué une crise au sein de la CDU avec la démission de la chef Annegret Kramp-Karrenbauer, la désignation très bientôt d'un prochain chef, ça sera au congrès du 25 avril prochain, et on pense a priori une barre très à droite du côté de la CDU. Est-ce qu'une alliance, je vais vous poser la question directement, Jérôme Vaillant, est-ce qu'une alliance entre conservateurs et écologistes est possible au lendemain des prochaines élections fédérales?
C'est sans doute la solution la plus probable. Donc elle n'est pas seulement possible, mais elle est de plus en plus probable pour une raison qui tient aussi à l'arithmétique tout simplement électorale. C'est que il n'y a pas d'alliance possible qui soit majoritaire, selon les sondages, en tout cas tels qu'on peut les voir aujourd'hui, qui conduise à un gouvernement fédéral stable. Si on regarde les sondages qui vont tous plus ou moins dans le même sens au plan fédéral, on constate effectivement que, en dehors d'une alliance chrétien-démocrate vert, qui pourrait atteindre 48-50% des voix en automne 2021, il n'y aurait que la possibilité peut-être d'une alliance sociodémocrate vert et la gauche, mais je pense que la gauche n'est pas suffisamment mûre encore pour entrer dans une coalition au plan fédéral à cause de ses options de politique extérieure, où elle n'a toujours pas fait encore le tri de ce qu'elle acceptait, de ce qu'elle refusait.
Alors justement, Jérôme Vaillant, parce que pour qu'une coalition noire-verte, c'est-à-dire conservateur-écologiste, soit possible au niveau fédéral en Allemagne, il faudrait que les écologistes verts soient enclins à accepter une politique migratoire restrictive. Parce que a priori, c'est vers cela qu'on se dirige du côté de la CDU. Quand on regarde ce qui s'est passé du côté de l'Autriche, par exemple, les verts autrichiens ont accepté, par exemple, le fait que la nouvelle coalition n'acceptera pas de dispositif européen de répartition des migrants, alors qu'ils y sont favorables. C'est un des exemples. Mais est-ce que du côté des Verts allemands, on est prêt à faire des concessions?
Je crois que les Verts sont prêts d'abord à assurer le pouvoir au niveau fédéral. C'est peut-être d'ailleurs sur ce plan-là, permettez-moi un rapide petit rappel.
Je vous en prie.
C'est dommage que lors des élections fédérales précédentes, celle de septembre 2017, la fameuse coalition jamaïcaine qui aurait pu associer les chrétiens-démocrates aux libéraux et aux Verts n'ait pas vu le jour à cause de la défection des libéraux. Ça aurait été déjà une première, je dirais, façon de sonder le terrain, non pas seulement dans les intentions, mais dans la vie pratique. Personnellement, j'ai toujours regretté que cette coalition n'ait pas vu le jour, parce qu'elle aurait été un véritable laboratoire politique pour l'Allemagne.
Pourquoi elle ne s'est pas faite? Pourquoi elle ne s'est pas faite?
Alors, elle ne s'est pas faite parce que les libéraux, je dirais, ont tout simplement préféré, d'après ce que leur président Christian Lindner a dit à l'époque, nous préférons ne pas gouverner que de gouverner mal. C'est un problème de rivalité, c'est un problème qui subsiste entre libéraux et verts, qui au fond se partagent un peu le même électorat, je dirais, de la bourgeoisie éclairée en Allemagne. Et cette rivalité a fait que les libéraux ont préféré ne pas entrer dans une coalition où ils avaient le sentiment que ce sont les verts qui auraient eu la préférence de la chancelière et non pas eux, les libéraux, comme dans le passé. Alors je crois qu'il faut voir qu'il y a cette arithmétique électorale qui compte pour beaucoup, mais en même temps, les Verts ont aussi passablement évolué. On évoquait il y a un instant l'aspect idéologique. On voit bien que quelqu'un comme Robert Habeck, qui a été ministre de l'écologie dans le Schleswig-Holstein, plaide ouvertement pour réconcilier économie et écologie, et que dans les gouvernements régionaux où ils participent, alors soit à des coalitions avec les chrétiens-démocrates, soit à des coalitions avec les sociaux-démocrates, les Verts vérifient ce qu'ils peuvent obtenir pour réaliser leur programme, et en général, ça veut dire construction d'éoliennes, donc insister sur les énergies renouvelables. Et en matière de migration, si je regarde un petit peu ce qui s'est passé en S après les élections de 2018, le programme signé par les chrétiens-démocrates et les Verts prévoit de nouveaux emplois au niveau de la police, l'extension de la vidéosurveillance, et en matière de réfugiés, ils insistent surtout pour qu'il y ait une répartition sur toutes les communes du Land, mais en cas de refus de la part des communes, eh bien, ou des réfugiés, eh bien, à ce moment-là, retour à la case départ. Donc les Verts sont prêts à faire des concessions, tout simplement pas par sens du réalisme. Les Verts qui sont actuellement au pouvoir, qu'ils soient avec les chrétiens-démocrates ou les sociaux-démocrates, sont des partisans de la réelle politique. Ce sont les réalos dont la meilleure figure de proue a été, à partir des années 80 déjà, Joschka Fischer, hein, qui a créé un groupe de travail à Francfort avec Daniel Cohn-Bendit, dont l'objectif était de permettre aux Verts de devenir potentiellement crédibles pour gouverner un Land et, pourquoi pas plus tard, l'ensemble de l'Allemagne.
Ouais.
Joschka Fischer a été un ministre du gouvernement Schröder, il ne faut pas d'ailleurs l'oublier non plus.
Alors, on va faire réagir peut-être Patrick Moreau et Dany Leder. On va commencer par vous, Patrick Moreau. Au nom du réalisme, les Verts allemands sont prêts, selon vous, à envisager une coalition au niveau fédéral? Vous pensez que finalement l'Autriche a ouvert le bal et que l'Allemagne va suivre très bientôt? Patrick Moreau, vous y croyez, vous?
c'est effectivement relativement probable, à l'exception peut-être si la crise de la CDU s'accélère, effectivement il y aurait une majorité de rechange à gauche, si vous voulez, sociaux-démocrates, plus vert, plus Die Linke. C'est vrai que Die Linke est dans une situation difficile à cause effectivement de l'héritage SED, mais néanmoins ça reste une option mathématique tout possible. Si la deuxième grande inconnue, c'est qui va diriger la CDU à partir du 25 avril. Mmh. Si Monsieur Laschet, qui est donc le président de Rhénanie-Westphalie, la plus grosse fédération CDU, arrive à la tête du parti, une alliance avec les Verts est tout à fait possible. Par contre, si Friedrich Merz prend la tête de la CDU, les choses vont être infiniment plus compliquées parce que la compatibilité entre les Verts et Friedrich Merz est relativement faible, même si, comme Jérôme Vaillant l'a dit, les Verts travaillent énormément sur la compatibilité de la pensée verte avec l'économie. Là aussi, les choses sont très très ouvertes.
Daniel Eder.
Oui, je vais me permettre d'apporter un minuscule éclairage parce que bon, ces pronostics, comme vient de le dire mon prédécesseur, sont difficiles. Si cette coalition vert-conservateur va se faire en Allemagne, ça dépend aussi pour une grande partie des luttes internes aux conservateurs. Si l'aile droite s'impose peut-être pas, si l'aile plus libérale dans la tradition de Angela Merkel s'impose, là oui. Mais il y a une question pour nos auditeurs français, qui sont les Verts au fond, en Autriche, en Allemagne? Et je vais y répondre très simplement, comme ça vous allez voir d'où vient cette compatibilité, y compris avec les conservateurs. Ben, c'est simplement ce qui correspondrait en France à l'aile gauche, au courant gauche du macronisme. Hein, c'est ça les Verts, au fond, dans les pays dont nous discutons aujourd'hui. Et donc, nous savons que l'aile gauche du macronisme est prêt à aller très loin pour pouvoir être aux manettes, pour donner une impulsion, disons, humaniste et centraliste à la société. Et la même chose est vraie pour les Verts en Autriche et en Allemagne.
Juste une petite précision, une réponse assez rapide, mais je comprends pas pourquoi, Daniel Eder, vous dites que ça dépend des luttes internes, parce que la CDU reste dans sa ligne actuelle ou qu'elle se droitise un peu, et donc qu'elle se rapproche d'une certaine manière du conservatisme à la course.
Alors là, ça va être difficile, je pense.
L'alliance avec les écologistes, dans les deux cas, est possible.
Ça va être difficile parce que même s'il est vrai que les Verts allemands sont prêts à aller très loin au niveau de la politique de maîtrise de la migration, de mener une politique dure vis-à-vis de l'insécurité et de la criminalité, il se pourrait, je dis bien, qu'une aile droitière des conservateurs allemands puisse à ce moment-là favoriser aussi une alliance avec l'extrême droite allemande, qui elle aussi peut évoluer dans un sens comme dans l'autre. Tout dépend aussi des scores électoraux, hein, on peut pas les prédire là actuellement.
Oui, mais même si la CDU a priori se droitise, oui, elle va siphonner a priori une partie
des voix de l'extrême. Il pourrait faire justement la manœuvre qu'a réussi à Kurz avant que cette coalition entre la droite et l'extrême droite implose. Il a siphonné les voix de l'extrême droite tout en s'alliant avec elle.
Merci à tous nos invités. Jérôme Vaillant, qui était à l'instant par téléphone avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de la revue Allemagne d'aujourd'hui. Merci, Daniel Eder, également, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes vous correspondant à Paris du quotidien autrichien Courir. Et je remercie également Patrick Moreau, qui était avec nous en duplex de Berlin. Vous aviez notamment signé L'autre Allemagne, le réveil de l'extrême droite, mais aussi de Jörg Haider à Heinz Christian Strache, L'extrême droite autrichienne à l'assaut du pouvoir, c'était aux éditions du Cerf. On remettra évidemment toutes ces références sur la page de Culture Monde. C'est avec ce groupe autrichien, Europa 22, c'est le titre de ce morceau qu'on se quitte. On poursuivra demain notre série consacrée au laboratoire politique en Europe. On parlera de la Grande-Bretagne, mais pour l'heure, on retrouve notre ami Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors dans sa trilogie théâtrale Wallenstein, l'écrivain allemand Friedrich von Schiller fait dire à l'un de ses personnages, l'Autrichien a une partie qu'il aime et qu'il a bien raison d'aimer.
Une patrie qu'il aime. Et cette citation figure dans le roman Mélodie de Vienne, publié en 1944 aux États-Unis, mais en allemand, par Ernst Lothar, un écrivain autrichien juif qui s'y était exilé pour échapper aux persécutions hitlériennes. Alors ce Lothar, vous me direz, était tombé dans l'oubli, mais sa Mélodie de Vienne fait l'objet de nos jours d'une redécouverte amplement méritée. Un autre grand écrivain allemand, celui-là, y exilé en Grande-Bretagne, Sebald, dans un livre consacré précisément à la littérature autrichienne, La description du malheur, discutait, lui, la théorie, je cite, selon laquelle la disposition mélancolique de la culture autrichienne serait le pendant d'un déclin politique qui traîne par trop en longueur et de ce fait se confond avec l'impossibilité d'admettre l'évolution dans le temps. Fin de citation. Et oui, il y a un pessimisme spécifique à la littérature autrichienne mêlé d'une aimable ironie qui transparaît tout au long de ce roman Mélodie de Vienne. Alors ce roman, il a été comparé au Buddenbrook. Comme l'allemand Thomas Mann, l'Autrichien Ernst Lothar a eu l'ambition de raconter l'histoire de son pays par le biais d'une saga familiale. Ou mieux encore, à travers l'histoire des différents étages de cette belle maison bourgeoise de Vienne, le numéro 10 de la Zeilerstätte, où le lecteur va voir se narrer la vie de plusieurs générations d'une même famille. Voici donc les Alt, fabricants de pianos de père en fils depuis l'époque où le fondateur de la dynastie organisait des concerts vaguement maçonniques que le grand Mozart honorait de sa présence. Car Ernst Lothar entrecroise avec beaucoup de virtuosité ses personnages imaginaires avec nombre de personnalités historiques. Il apporte même sa propre version du suicide, resté mystérieux, de l'héritier de la monarchie impériale et royale. Son Altesse royale Rodolphe aurait été amoureux d'une cantatrice d'origine juive, Henriette Stein, qui est d'ailleurs l'une des héroïnes du roman, mais rongée par la syphilis et se serait suicidée. Comme le suggérait déjà Joseph Roth dans « La crypte des Capucins », autre grand roman historique sur cette même époque, l'Autriche était depuis longtemps un mythe qui ne reposait plus que sur son empereur, le Habsbourg François-Joseph, à son obstination à ne pas mourir, lui qui régna durant 68 ans sur sa double monarchie. D'ailleurs, dans le roman, la nuit de la mort de l'empereur en pleine guerre mondiale, la jeune Martha Monica provoque l'incendie du fameux numéro 10, siège de la décence et de la tradition, en jetant imprudemment une cigarette pour cacher à sa mère qu'elle fume. Et oui, un monde s'effondre, l'apparence de solidité, de régularité que l'auguste vieillard conférait à son empire par le caractère laborieux, obstiné, routinier de son austère mode de vie, dissimulait de plus en plus mal les tendances à la dissolution. Citation de Lothar, Ernst. L'Autriche est une communauté obligée, ça ne t'a jamais frappé, une cohabitation d'éléments disparates, les Tchèques détestent les Allemands, les Polonais les Tchèques, les Italiens les Allemands, les Slovènes les Slovaques, les Ruthènes les Slovènes et les Hongrois, ils détestent tout ce qui n'est pas eux. Qu'est-ce que ça veut dire finalement l'Autrichien? Ça n'existe pas. C'est une appellation inventée par les Habsbourg pour justifier leur pouvoir. Eh oui, tout cet univers qui semblait figé dans ses traditions, ses hiérarchies sociales et ses routines s'effondre alors. D'un bloc. Sans doute, son existence était-elle gagée sur la personne même de cet empereur, ennuyeux et dépourvu d'imagination, mais bien décidé à arrêter le cours de l'histoire. Avec sa mort, puis la défaite, vient le temps de l'inflation, citation du roman, un abîme s'ouvre sous nos pieds et nous faisons comme si le sol était sûr.
Vient alors, Brice, le temps des crises financières, sociales, culturelles.
Eh oui, tout ce qui avait présenté l'apparence de la stabilité devient volatile et précaire. tandis qu'un certain caporal, refusé aux Beaux-Arts de Vienne pour manque de talent, s'empare du pouvoir à Berlin. Et là, je cite à nouveau Lothar, « Son apparence est ridicule, son regard, étudié pour fasciner, est factice, sa façon pompeuse de s'exprimer l'est aussi, tout comme son allure martiale, il nage dans ses costumes comme s'il venait de chez le fripier, quand il reçoit des diplomates, il attend de voir ce qu'ils font pour les imiter. En uniforme, il a l'air d'un chef de gare, il a le niveau intellectuel d'un politicien de comptoir et sa conception du monde ne relève pas de la connaissance, mais de la vengeance personnelle. Mais cet homme primaire a eu l'idée primaire qu'après 4 ans de guerre, on répugnerait à en refaire une autre. Il a donc tout misé sur cette idée et il a eu la chance de bluffer le monde qui a pris ses menaces au sérieux. Mais même quand c'est un clown qui met le feu au monde, eh bien le monde brûle. Mémoire de Vienne, donc, ce roman se termine sur l'Anschluss, fin de l'Autriche, annexée au Troisième Reich allemand. Le pays millénaire s'appelait maintenant Marche de l'Est.
Merci beaucoup Brice Couturier, donc Mélodie de Vienne, Ernst Lothar, qui est paru aux éditions Liana Lévy.
C'est ça.
On retrouve évidemment votre chronique sur le site de France Culture. Et on vous retrouve demain, cher Brice.